J'aime bien intervenir dans les lycées, même les collèges. Je fais un peu de maths en jean avec les collèges. Je ne sais pas s'il y a des filières maths en jean ici.
Non.
Donc, le maths en jean, sont des sujets de recherche en fait, que les élèves résolvent avec leurs professeurs. Et souvent, il y a un encadrant qui vient de l'université qui propose le thème. C'est assez sympa parce qu'à la fin de l'année, il y a une grande... Bon, là, avec le Covid, tout est un peu bouleversé, mais souvent, il peut y avoir 600 élèves qui se retrouvent, qui se présentent leurs travaux. Et c'est assez abouti, enfin, c'est assez intéressant comme travail. Après, je fais pas mal de conférences générales parce que j'aime bien l'histoire des maths. Donc, je donne aussi des cours d'histoire des maths. Il m'est même arrivé de faire des conférences à l'ambassade de France à Tokyo sur le type de mathématiques que je fais parce que, justement, c'est... Il y a un lien avec l'histoire, ben c'est un peu ce que je vais raconter là. Donc si vous voulez, avant qu'il y ait des questions sur mon métier, ou sur ce que vous voulez, je vous présente, bon ça va être un peu égocentré, c'est mon parcours à moi, pour, comme ça vous verrez un peu comment on peut se retrouver à enseigner à l'université, à faire de l'enseignement et de la recherche à l'université. Alors je suis un peu décalé, d'abord j'ai commencé... Alors bon, ça c'est un descriptif très général qui est encore valable aujourd'hui. Donc pour devenir enseignant à l'université, il faut passer une thèse. Une thèse, c'est 8 années d'études, mais les 3 dernières années sont financées. Donc, en fait, c'est un CDD avec un salaire en gros qui est un SMIC. Donc par exemple, mon fils maintenant, il est en thèse de biologie. Bon, mais ça veut dire que pour les parents, vous me payez plus les épreuves tout seul. Donc on a quand même un travail de 3 ans. Souvent c'est suivi par ce qu'on appelle un post-doctorat, donc vous avez 3-4 ans qui sont quand même financés après 5 années d'études. Donc il y a 5 années jusqu'au master, 3 années de licence, 2 années de master, et puis 3 années supplémentaires de thèse. Jusqu'au master en mathématiques, c'est un peu comme à l'école, hein, vous avez des cours, il y a un peu de projet éventuellement, si vous faites des choses plus appliquées, vous allez pouvoir travailler dans l'industrie, faire des stages dans l'industrie plus ou moins longs. Mais globalement, en tout cas moi, quand j'ai suivi mes études, c'était comme au lycée. Bon, donc on est derrière une table, on apprend des cours, on fait des exos. Bon, c'est pas, il n'y a rien de très très nouveau. Par contre, le doctorat, là, vous allez être sous la coupe d'un professeur, d'un professeur avec un E éventuellement à la fin. Ça peut être un homme ou une femme. Il y a plus d'hommes en mathématiques, mais c'est un peu circonstanciel. Et là, pendant 3 ans, il vous propose un travail et vous essayez de résoudre, d'avancer dans ce travail. Ce qui est intéressant là-dedans. Et ce qui est très nouveau, c'est que c'est un travail qui n'est pas résolu. Donc lui ne sait pas si ça va aboutir, pas aboutir. Donc souvent, ça évolue pendant la thèse.
Ce schéma-là, il est valable pour tous les élèves qui envisagent des parcours licence master.
Oui, là, c'est pas que mathématiques.
Donc enregistrez-le bien.
Donc ça, c'est vraiment standard dans les études à l'université. Et c'est standard dans le monde entier maintenant. Vous avez toujours 3, 5, 8, dans le monde entier. Les Anglais s'y sont pliés, nous aussi, enfin il y avait... Alors moi j'ai commencé mes études à l'île de la Réunion. Bon, je suis né à Auch, je suis pas né pas très loin d'ici, et je disais à votre professeur que mes grands-parents ont vécu à Mirande assez longtemps. Mais je suis arrivé à l'île de la Réunion, j'avais 1 an, et j'ai vécu en gros 20 ans. Quoi. Donc j'ai commencé mes études là-bas, il y avait une université qui venait juste de se créer. Donc après mon baccalauréat, je suis resté à la Réunion, j'ai fait 2 années d'université là-bas. Que mes parents trouvaient que j'étais trop jeune pour me laisser partir en métropole. Bon. Il y a quand même 10 000 km. Et bon, c'était une université très récente. C'était pas mal. Un peu exigeant. Il y avait une grosse sélection à l'époque. On était 125 en première année. On était 25 en deuxième année. Et il n'y avait que du bac C en mathématiques. Enfin, c'était même avant les S. Bon, ils faisaient ça. Pourquoi est-ce qu'ils sélectionnaient aussi rudement ? Parce qu'il n'y avait pas de prépa à la Réunion. Et ensuite, les enfants, pas les élèves, allaient rentrer en métropole, donc à 10 000 km de leurs parents. Il ne fallait pas qu'ils cumulent la difficulté du froid, de la distance, et en plus avec des difficultés mathématiques. Enfin, et donc, ils blindaient le niveau en mathématiques pour qu'on soit tranquille au moins là-dessus. Bon, ce qui était pas bête, en fait. Alors après, je suis parti. Et comme j'avais bien travaillé, mais c'était un peu une surprise pour moi, hein, parce que je n'étais pas très très bon au lycée, ça ne m'intéressait pas beaucoup les mathématiques. C'est vraiment en arrivant à l'université, comme le niveau est exigeant, j'ai été obligé de me mettre à travailler, je ne pouvais pas juste faire les exos comme je faisais au lycée, sans trop savoir ce que je faisais, mais en ayant 10-11. Et en travaillant beaucoup, je suis devenu un bon étudiant. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer à l'École normale supérieure par une voie de biais. S'appelait, l'École normale supérieure, c'est peut-être le must si vous passez le concours. Il y a 30 élèves qui sont pris par an, en gros. Donc, ils viennent souvent avec une formation en prépa qui est très exigeante. Mais cette année-là, ils essayaient d'ouvrir un peu. Ils ont pris 4 ou 5 élèves qui provenaient de l'université, qui avaient des bons dossiers. Donc, moi, je suis rentré là-dedans. Alors, au bout de 3 mois, j'étais complètement atomisé, je ne comprenais rien. Bon, tous les cours étaient un peu à l'envers, donc bon, c'est pour ça qu'il me suis mis un peu à côté avec un bonnet d'âne. Heureusement, ma mère est rentrée en vacances, elle a dit « Allez, tu quittes ça, on repart à l'université ». Et donc, je suis revenu à l'université à Paris en lâchant un peu l'École normale supérieure. C'est pas que c'était plus dur, mais c'est comme souvent en mathématiques, c'était décalé. Comme les élèves, pour passer ce concours très exigeant, en fait, ils avaient déjà un niveau, c'est pas qu'ils étaient forcément meilleurs, mais ils avaient une année de plus en fait, de connaissances pour être capables de faire le concours. Donc les profs, au lieu de leur faire un cours classique, ils prenaient les choses à l'envers. Par exemple, on n'avait pas d'exercice. Ils nous lisaient le journal de Lebel. Enfin bon. Donc quand on n'était pas aussi à l'aise qu'eux, je l'ai complètement perdu. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi faire comme travail. Chacun a le goût, vous devez connaître un peu ça, ça arrive souvent en mathématiques. De se retrouver, à un moment on comprend bien, puis à un moment on ne comprend plus, on a deux, un.
Alors sachez qu'il y a des ENS dans de nombreuses disciplines, en mathématiques, également dans le domaine littéraire. Et puis je sais que dans cette classe il y a des élèves qui sont intéressés par le droit. Il existe également une école normale supérieure pour le droit qui se trouve à Rennes. Voilà, sachez-le.
Oui, tout à fait. Maintenant il y a des entrées, d'ailleurs il y a des formations qui s'appellent prépa D2, prépa D1. Que j'ai un fils qui a fait ça, moi j'étais pas du tout au courant, qui a une formation à cheval sur une école préparatoire et l'université. Donc c'est assez relevé, il est très content, il n'était pas forcément très très bon, hein, il n'a jamais trop travaillé. Mais là, c'est assez exigeant, en même temps il y a l'université, donc il voit que s'il peut pas rentrer à l'école normale, il va pouvoir continuer, enfin bon, c'est des bonnes
un double parcours et une garantie, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on n'a pas perdu l'année en prépa. On retombe sur ses pieds l'année suivante à l'université.
Mais sinon, l'école normale supérieure, donc ça c'est là, c'est l'école normale d'une, donc il y a vraiment très peu de monde dedans, les matières sont, ils ont limité, c'est souvent français, maths, philo, il y a un peu de physique. Bon, et après, c'est une catégorie spéciale, vous connaîtrez plus. Alors après, j'ai quitté l'école normale supérieure, qui est un vieux bâtiment du 19e siècle, pour aller à Jussieu. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris. Jussieu, c'est une énorme université, mais alors, vous voyez, elle a l'air un peu monstrueuse, mais elle est quand même en plein centre de Paris. Elle est vraiment dans le quartier latin, ce qui fait que c'était quand même assez agréable, même si ça ressemble à une usine. Et effectivement, c'est une sorte d'usine, il y a 70 000 étudiants et enseignants. C'est vraiment une grosse machine dans la ville. Et qui est, bon, ils essaient de se regrouper avec d'autres pour le classement de Shanghai, mais avec beaucoup de très bons chercheurs. Donc là, je suis allé jusqu'au doctorat dans cette université. Donc voilà mon directeur de thèse. Donc vous avez une relation un peu privilégiée avec un professeur. Alors quand j'étais en thèse avec lui, il était un peu plus jeune que sur la photo. Vous avez une relation privilégiée avec un enseignant qui s'occupe de vous pendant 3 ans. Pas nécessairement que de vous, hein. Il a 2-3 étudiants en général, mais pas plus. Et on organise, il vous explique des choses, il vous demande de faire certains travaux, il vous amène en voyage. Bon, c'est assez sympathique. D'ailleurs, souvent, c'est tellement sympathique qu'il y a beaucoup de... Bon, ça se fait un peu moins maintenant, mais il y a beaucoup de couples qui se sont formés avec un professeur de thèse et une étudiante, ou une professeure et un étudiant. Bon, c'est quand même assez fréquent à l'université. Bon, moi, c'était pas mon cas, mais... Oh, ben voilà. C'est un monsieur très sympathique, mais comme il avait l'âge de mon père, c'était assez agréable aussi de faire une sorte de transfert. Ah. Alors, voilà. Donc, ce directeur de thèse, il vous propose un sujet. Et vous allez réfléchir pendant un certain temps sur un sujet avec lui. Évidemment, en mathématiques, on ne comprend pas forcément la teneur du sujet. Donc là, j'ai mis, voilà, on va utiliser des sortes d'articles comme ça. Donc ça, c'est une liste de problèmes. Bon, voilà, on ne peut pas le lire, hein, mais il y a une liste de problèmes. C'est un mathématicien qui est connu dans le monde, qui s'appelle Hartshorn, qui est très reconnu, disons, par ses pairs, et qui va dire, en ce moment, je pense que les 10 problèmes principaux à résoudre dans cette discipline, c'est ça. Et il fait une liste de problèmes. Et donc, vous allez piocher là-dedans et puis essayer de faire avancer la science ou d'apprendre des choses dans ce domaine. Alors, donc pour choisir son sujet de recherche, moi, je me suis intéressé à un problème qu'on appelle le problème de Poncelet, ou porisme de Poncelet. Donc, je vais peut-être en dire un petit mot. Voyons si c'est là que j'ai prévu de mettre un peu de GeoGebra. Alors, qui est ce... Bon, d'abord, peut-être je suis passé un peu vite. En ce moment, on parle un peu de... Je suis passé un peu vite sur mon directeur de thèse. J'aurais pu dire quelque chose qui a à voir avec ce qu'on raconte d'un point de vue historique. Peut-être, je vais juste dire que dans ma génération, c'est assez commun maintenant d'avoir des universitaires qui ne sont plus d'école normale supérieure. Dans la génération d'avant, c'était en mathématiques très rare. Tous les mathématiciens français venaient de l'école normale supérieure dans la génération de mon directeur de thèse. Lui, non. Lui, il avait fait l'université. Alors pourquoi ? Ben parce que son directeur de thèse, qui s'appelait Pierre Samuel, qui était juif, avait réussi le concours de l'école normale supérieure, avait même été major, et il a été mis à la porte par les lois juives de 41, je crois. Et donc ensuite, évidemment, il a été mis à la porte de l'école normale supérieure, mais il a pu continuer à l'université. Il a récupéré un poste plus tard. Et après, lui a toujours pris des étudiants issus de l'école normale supérieure et des étudiants issus de l'université pour cette raison-là. Et ce qui fait qu'il a recruté mon directeur de thèse, qui était universitaire, et qui lui-même a continué comme ça à recruter toujours des universitaires, des normaliens aussi, mais aussi des universitaires. Bon, donc c'est un peu pour la petite histoire. Alors Poncelet, c'est un mathématicien français qui est très connu, disons, en géométrie, mais qui n'a pas laissé autant de travaux que, je ne sais pas, Gauss, Euler, Pascal, enfin les très grands noms, Cauchy, que vous croiserez plus tard. Mais parce qu'il était militaire et il a produit une certaine quantité de travaux, puis après il a été pris par les travaux de l'armée, l'organisation administrative. Mais très jeune, ce qui me plaît dans son histoire, c'est que ça a un peu à voir avec les mathématiques. Les mathématiques, c'est une discipline dans laquelle il faut savoir s'isoler et on va seul essayer de résoudre un problème en y consacrant plus ou moins du temps, parfois... si vous avez entendu parler du théorème de Fermat, Wiles, il y a passé vraiment 7 ans tout seul à essayer de résoudre un problème, sans compter les années qui ont précédé, les années de préparation. Mais il a vraiment travaillé seul pendant 7 ans sur ce sujet pour essayer de le résoudre. Et il l'a résolu. Donc lui, Poncelet, il s'est retrouvé en prison, en fait, en Russie, lors de la débâcle de l'armée napoléonienne. Il a été fait prisonnier sur le champ de bataille, au moment de la débâcle, au moment de la Bérézina, etc. Et pendant, heureusement, il était tout jeune, il avait 25 ans, donc il a résisté physiquement. Il s'est retrouvé en prison, il n'avait rien à faire en prison, il raconte dans la préface de son article. Et comme il s'ennuyait, ben, il a réfléchi à ses problèmes, à ses cours de mathématiques, mais il n'avait pas de notes, il n'avait pas de livres. Et il a avancé assez vite en disant, ah, mais ça, je me souviens que mon prof, oui, ça, c'est connu. Hop, hop, il passait. Donc même s'il ne démontrait pas, il a trouvé, il a reformulé tout un pan de la géométrie qu'on appelle aujourd'hui la géométrie projective. Et il s'est intéressé à des problèmes, voilà, qui est celui-là, qu'on appelle des problèmes de porisme de Poncelet. Donc vous voyez ici, donc là j'ai dit conique, mais vous avez déjà entendu peut-être parler d'ellipses, hein, comme les planètes suivent des parcours elliptiques ou suivent une ellipse autour du Soleil. Hein, la révolution des planètes autour du Soleil, c'est une ellipse qui est décrite. Donc là, vous avez une ellipse dedans, une ellipse à l'extérieur. Et son théorème, c'est que si vous arrivez à tracer des droites comme ça, qui s'intersectent sur l'ellipse extérieure et qui touchent l'ellipse intérieure, vous voyez là, je pense qu'il y a 17 droites. Il y a ce qu'on appelle un polygone à 17 côtés. Si vous arrivez à en tracer un, ben en fait, la figure tourne. Il y en a une infinité. Si on a un, il y en a une infinité. Et ça, c'est une généralisation d'un théorème que vous connaissez sans connaître, que vous avez déjà appliqué sans le connaître, c'est le théorème de l'Euler-Chapelle qui dit ça. Je vais vous montrer sur GeoGebra après. Vous prenez un triangle, ça vous le savez depuis le collège. Vous prenez un triangle, il existe un unique cercle circonscrit et il existe un unique cercle inscrit. Maintenant, si vous effacez le triangle, en fait, ces deux cercles sont les cercles inscrits et sont les cercles inscrits dans le triangle et circonscrits au triangle pour une infinité de triangles. En fait, le triangle tourne. Parce que si on prend deux cercles au hasard, il n'y a aucune chance que ce soit les cercles inscrits et circonscrits d'un triangle. Alors je répète doucement, je vous montre sur le géodébat, si vous voulez.
Si la règle est applicable une fois, voilà.
Si on a deux cercles, je me donne deux cercles et je trace un triangle. Si mon triangle est inscrit dans le grand cercle et touche le cercle au milieu, alors le triangle va bouger en fait. Les cercles vont être fixés, le triangle va bouger. Cette relation-là, ça ne dépend que du rayon du grand cercle, du rayon du petit cercle et de la distance entre les centres. Le D, là, c'est la distance entre les centres. Le petit R, c'est le rayon du petit cercle. Le grand R, c'est le rayon du grand cercle. Si vous avez une relation polynomiale comme ça, grand R2 moins 2RR moins D2 égale à 0, alors sont les cercles inscrits et circonscrits d'un triangle. Alors, je vous montre sur GeoGebra, ça se fait très bien sur GeoGebra, c'est sympa. Donc ça c'est avant foncé. Formule du chapeau. Ah, c'est un peu gros. Ah voilà, très bien. Ça c'est la formule, vous voyez. Et en fait, ça se. Vous voyez que ça marche pour une infinité de triangles. J'ai laissé le triangle noir, mais le rouge il tourne, il reste tangent au cercle intérieur et inscrit dans le cercle extérieur.
Ça, c'est des applications en quoi
ça? Ça a des applications certainement en physique théorique, en théorie de ce qu'on appelle les théories du billard, des choses comme ça, vous avez des particules. Après, tout n'a pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Vous voyez, en général, hein, si je prends deux cercles au hasard, ben ces cercles seront, si je veux que le grand soit le cercle circonscrit au triangle bleu, le triangle bleu ne touche pas le cercle noir. Si je veux que le cercle intérieur soit un cercle de contact du triangle marron, il n'est pas inscrit dans le grand cercle. Donc ça ne se produit pas en général. Si ça se produit une fois, ça se produit une infinité de fois. On appelle ça des porismes. Et ce qu'a fait Poncelet, c'est qu'il a montré plus généralement, il l'a montré pour n'importe quel polygone et n'importe quel, il a généralisé ce qu'on appelle au conique. Donc là, j'ai fait un dessin avec des ellipses, mais ça marche avec des paraboles. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié les paraboles. Si vous faites Y égale X2, c'est une parabole, c'est aussi une conique. Donc les coniques, ça comprend les cercles, les ellipses, les hyperboles, les paraboles, et même deux droites. Donc quand on a une... Je vais avoir la même chose. Là, j'ai un... Vous voyez, j'ai un pentagone. J'ai un pentagone bleu. Il y a cinq droites bleues qui s'intersectent sur l'ellipse extérieure et qui touchent l'ellipse intérieure. Quand vous avez une situation comme ça, ce qu'il a montré, c'est que ça bouge. Vous avez en fait une infinité de pentagones, quel que soit le point de départ.
Donc la règle valable pour les triangles fonctionne également pour...
Voilà, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne pour n'importe quel nombre de côtés. Si j'ai un polygone à n côtés, ça va se fermer au bout de n pas, tout le temps. Donc voilà un peu le sujet. Alors pour vous dire un peu quels travaux on peut faire là-dessus, moi j'ai fait un petit article où j'ai fait dégénérer une des ellipses extérieures, je l'ai transformée en deux droites, et donc maintenant je construis des polygones. Là il y a un polygone à 8 côtés, alors il est croisé, hein, c'est pas un polygone convexe, il y a des croisements comme ça, mais il y a 8 segments, 8 droites, les 8 droites sont tangentes à l'ellipse noire, et les sommets et les 8 droites sont séquentes sur la courbe bleue, sur les deux droites. Et alors, quand vous avez une structure comme ça, qui se ferme, en fait, ça se ferme pour une infinité de fois, donc elle va se déplacer, ça fait comme un accordéon, en gardant la propriété de se rencontrer sur les droites bleues et de rester tangent à l'ellipse. C'est vraiment lié au fait que les courbes soient des courbes de degrés des coniques.
Question d'un ignorant. Là, on reste dans le domaine des deux dimensions.
Là, on n'est que dans le plan. Mais il y a des preuves, il y a plusieurs types de preuves. Il y a des preuves dans l'espace, évidemment, parce que ça vient de propriétés de l'hydraulique dans l'espace. OK. Donc voilà un peu, en gros, alors, je reviens à ma présentation. Donc ça, c'est le théorème de Lehrschappel. Et vous pouvez regarder sur Wikipédia, il y a des formules, là c'est une formule assez simple, il y a des formules un peu plus compliquées si vous voulez un quadrilatère, un pentagone, etc., avec des cercles. Les formules avec des coniques, plus généralement, sont très compliquées. Bon. Alors après, moi je m'intéresse aussi à ce qu'on appelle des familles de droites dans le plan. Donc ça c'est assez simple, c'est des droites et des points dans le plan. Et le problème de départ, c'est un vieux problème qui date du 19e siècle, qui est la question suivante, vous donnez un nombre de points finis dans le plan, vous supposez qu'à chaque fois que vous avez une droite qui passe par deux points, la droite contient un troisième point. Et la question, c'était de montrer alors que nécessairement, ils sont tous alignés. Parce que, vous voyez, si à chaque fois vous avez une droite qui contient deux points, elle doit en contenir un troisième, ben à un moment, on est obligé, si le nombre de points sont finis, c'est pas possible, on va tous les retrouver sur la droite. Alors ça, il a fallu 50 ans pour que les gens arrivent à le montrer. Il y a une démonstration pas trop dure, mais bon, je ne vais pas la faire maintenant. Mais surtout, c'est un phénomène important parce que si on change d'espace, si on ne travaille pas avec les nombres réels habituels, on travaille dans un espace un peu plus grand que vous allez rencontrer bientôt, les nombres complexes. Eh bien, dans les nombres complexes, il y a des familles de points qui ont cette propriété qu'à chaque fois que vous avez deux points alignés, il y a toujours un troisième point. Donc ça, c'est un arrangement de neuf points qui sont, là, en fait, sont des droites. Hein, sont des droites dans l'espace complexe. C'est un peu arrondi, mais... Bon, moi, je travaille là-dessus aussi. Ça s'appelle l'arrondissement de Bessel. Non, elles sont pas. Elles sont arrondies parce que je les force à être dans un plan réel. Elles sont dans un plan de dimension plus grande, en fait. Ah bon. C'est pas des réels, c'est des nombres complexes. Donc, en fait, il y a des dimensions cachées que vous ne voyez pas. Et si je veux vous le montrer dans le plan, je suis obligé d'écraser. C'est comme si vous aviez un cube et que vous l'écrasez dans le plan. Vous allez avoir des croisements qui n'existent pas dans l'espace à trois dimensions. Donc là, on a en fait des dimensions. En termes de dimensions réelles, on est en dimension 4. Et donc on le force à être en dimension 2, donc les droites sont plus droites. Non, pas l'air droite. Mais il y a des vrais alignements. Il y a des vrais alignements. Donc voilà, mon travail ensuite, ça consiste à écrire. Là, vous écrivez des articles, comme ça. Donc vous voyez, ça, c'est dans une revue. Expositionnel, ça doit être une revue allemande. Et bon, là, c'est un article en anglais, mais dans ma discipline en géométrie algébrique, on peut encore publier en français, même dans des grandes revues américaines. Bon, ça se fait de moins en moins, mais moi, au début de ma carrière, j'ai beaucoup publié en français parce que j'étais un peu têtu, je voulais écrire en français.
Et ça, c'est un conseil à vous donner en termes d'orientation. Pour les élèves qui envisagent des carrières scientifiques, ben, il ne faudra pas négliger l'anglais.
Oui, c'est important. Hein. Parce que des côtés, vous allez voir, un des côtés agréables du métier, c'est qu'on voyage beaucoup. Enfin, en Covid. Donc, vous avez écrire des papiers. Après, on va dans des conférences, souvent avec d'autres jeunes. Donc, des gens qui viennent un peu partout dans le monde et qui se retrouvent autour d'une thématique. Donc, vous avez une semaine de cours, par exemple. Donc là, moi, j'y suis pas, mais c'est j'ai pas mal de copains qui sont dedans. Donc au bout d'un moment, évidemment, on connaît un peu le milieu. Vous savez, sur une génération dans le monde entier, vous avez à peu près 250 étudiants. Donc vous connaissez très vite tout le monde dès que vous tournez un peu. Après, après ma thèse, j'ai fait un post-doc à Florence. Donc ça, c'était vraiment bien, j'étais content. Voilà. Donc j'ai fait pas très très long, mais j'ai passé 6 mois à Florence en post-doctorat. Vous vous rencontrez d'autres chercheurs, vous avez un statut un peu intermédiaire qui est pas mal. Ensuite j'ai eu un poste à l'université de Versailles. Bon, pour ceux qui aiment les voitures, l'université de Versailles c'est un domaine qui a été donné par Monsieur Panhard. C'est un vieux fabricant de voitures françaises. Et qui avait sa maison là, de famille. Et il a donné sa maison de famille à la ville de Versailles. Alors, dans ce travail, la partie agréable... Alors évidemment, j'ai pas précisé, moi je suis enseignant et chercheur. Donc le côté enseignement, c'est exactement comme votre professeur, je fais la même chose, je fais des cours de maths. Donc ça n'a rien d'original, c'est juste que c'est des maths un peu... C'est des maths dans la continuité de ce que vous faites au lycée, mais c'est le même style de cours, c'est complètement pareil. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le côté recherche, qui est un peu différent. Là, la recherche, c'est vraiment, vous posez les questions mathématiques, et la grosse différence avec le lycée, c'est pas montrer que, c'est que vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, ça, il faut toujours chercher dans les deux directions. Si vous faites l'erreur de croire que vraiment c'est vrai, j'en suis convaincu, je veux montrer que c'est vrai, je veux montrer que c'est vrai, et puis qu'à la fin c'est faux, vous risquez de passer, moi ça m'est arrivé en thèse, j'ai passé 7 mois, j'étais têtu, je voulais à tout prix montrer que c'était vrai, et puis j'ai découvert que c'était déjà connu depuis les années 60 que c'était faux, il y avait un contre-exemple. Bon. Donc il faut toujours chercher dans les deux directions, on cherche à prendre. Alors, pour dire encore un mot là-dessus, les structures de recherche dans le monde, il y en a. Bon, vous avez les universités, et après en mathématiques, ça c'est un peu spécifique des sciences dures, on aime bien s'isoler. Et donc il y a plein de centres de recherche qui sont complètement isolés. Par exemple, ça c'est Oberwolfach, c'est en forêt noire en Allemagne. C'est à 10 km du premier village. Donc vous êtes enfermé dans le centre pendant une semaine avec d'autres mathématiciens. Il y a même un jeu, Oberwolfach, c'est connu, c'est que vous ne pouvez pas vous asseoir à table avec qui vous voulez. Votre serviette est placée tous les soirs à une place différente pour rencontrer tout le monde. Bon, et après, c'est assez convivial, par contre. Hein,
parce que... jamais.
Non, mais parce que souvent, on va avec les mêmes. On va sur les mêmes tables, et là, on est vraiment obligé de tourner, de rencontrer tout le monde, c'est pas inintéressant. Ça, c'est un centre au Canada. Bon, c'est des... Il y en a aussi en France, hein, il y a plusieurs... Bon, voilà, j'ai des conférences, vous voyez, ça, c'est une semaine de cours, un peu cours et recherche. Avec, là, il y a des listes d'exposés. L'après-midi, des fois, vous avez une après-midi de libre pour aller vous balader. Mais c'est tout ce côté, c'est très convivial en mathématiques. Hein. Il n'y a pas d'argent, à part pour voyager. Donc, en fait, il n'y a pas de vol. C'est pas du tout comme vous voyez en médecine. On sent bien que c'est compliqué en ce moment. Donc, en médecine, par exemple, il y a énormément d'argent à la clé. Vous ne pouvez pas vous trouver un résultat, vous ne pouvez pas le raconter à vos collègues comme ça. Sinon, ils vont vous piquer l'idée. Enfin, l'argent excuse tout. En mathématiques, on ne sait pas vraiment voler. Il y a des
c'est pareil pour le problème du prix du millénaire.
Oui, mais le problème du millénaire, il y en a 7. Bon, on peut.
600.
Donc après, dans le travail, vous ne pouvez pas juste bénéficier des exposés des autres, donc il faut organiser des conférences. Donc voilà une conférence qu'on avait organisée. Ça, c'est que j'ai eu un projet. Alors, vous cherchez de l'argent un peu à droite, à gauche maintenant. Donc il y a un nouveau système, c'est financé par les ambassades de France et par les ministères à l'étranger. Donc là, c'était financé par le Japon et par l'ambassade de France. Donc ça, c'était agréable. Ça m'a permis d'aller plusieurs fois au Japon. Et de rencontrer les chercheurs japonais. Donc là, j'en ai profité pour mettre un personnage qui est un acteur très connu au Japon, mais moi j'adore, mais qui est peu connu ici, il s'appelle Zatoichi. Je ne sais pas si vous. Il y en a qui connaissent le cinéma japonais. Donc c'est un samouraï aveugle. Donc c'est toujours des histoires un peu de la veuve et l'orphelin. Là, il doit ramener un bébé chez son père, mais il est aveugle, alors. C'est vraiment incroyable. Hein, ça. Vous regardez sur YouTube Zatoichi. C'est quelqu'un qui a tourné 25 films en l'espace de 20 ans. Donc au Japon, c'est vraiment une célébrité. Bon, voilà, ça c'est d'autres conférences que j'ai organisées, une à Pau. Enfin, organisées, je ne suis pas tout seul, vous voyez. Où est-ce qu'il y a les organisateurs? Voilà, on était 4 organisateurs. Ça c'était à Pau, ça c'est une conférence que j'ai organisée en octobre. Ça, c'est à côté de Capri. Bon, après, je choisis, c'est pas pour vous faire baver, hein, mais on n'est pas allé. Moi, j'aime bien les lieux assez sympathiques, ça permet d'inviter les gens connus. Donc là, quand j'ai dit que, par exemple, j'organisais une école, Ischia, c'est une île dans la baie de Naples, à côté de Capri. Et donc, en octobre, il fait encore très bon, l'eau était à 23 degrés, enfin, c'est un... Donc quand vous dites, j'organise une conférence à Ischia, il y a tous les gens connus, ah je peux venir, donc ça fait en fait un bon niveau, ça c'est arrivé.
Donc vous faites de la géographie aussi
Non mais c'est vraiment le côté attirant du métier, hein. D'ailleurs dans la recherche en général, hein, maintenant ça s'est beaucoup développé, c'est très facile de se déplacer, c'était pas le cas avant. Bon, et après, ce que je trouve très sympathique dans les mathématiques, c'est le... Vous voyez, Moi, j'aime bien cette photo parce que ce monsieur-là, il s'appelle Paul Erdős. C'est un mathématicien. C'est le mathématicien et le scientifique qui a écrit le plus d'articles dans le monde. Il a écrit 1500 articles. Einstein, il a écrit 30 articles, pour donner un peu l'ordre de grandeur.
Einstein.
Einstein. Ce monsieur, il s'appelle Paul Erdős. Il n'a jamais été scolarisé. Il n'a jamais eu de poste fixe. Il a toujours travaillé sur invitation. Alors, il n'a pas été scolarisé parce que sa mère, la pauvre, quand elle est allée à la maternité pour accoucher, elle avait deux filles scolarisées qui ont chopé un virus à l'école qui sont mortes. Donc dans la semaine, elle est rentrée, elle avait perdu ses deux filles. Et donc ensuite, elle a un peu psychoté et elle a enfermé le garçon chez elle jusqu'à ses 18 ans. Donc il n'est jamais allé à l'école. Et d'ailleurs, il est resté avec sa mère. Il allait en congrès avec sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Donc il ne savait rien faire. Quand sa mère est morte, il fallait lui faire les lacets des chaussures et tout. Enfin, c'était un... Non, mais c'est un mathématicien, vraiment, comme on peut les imaginer. Il s'appelle Erdős. Ah oui, complètement perçu. Et après, il a jamais eu de poste fixe. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de salaire. Il était invité. On l'a invité dans telle université pendant 6 mois à Cambridge, ensuite un an à Paris. Enfin, et il a vécu, il est mort en faisant une conférence, il avait 85 ans. Et ce... Ouais, il a fait un arrêt cardiaque pendant sa conférence. Et ce... Ouais, parce qu'en plus... bon, pour trouver, pour garder les idées, il prenait pas mal d'amphétamines, il raconte ça. Dans ce... Il y a quelqu'un qui l'avait invité, il disait, Paul, il faut que tu arrêtes de prendre des amphétamines. Oui, mais je peux arrêter quand je veux, mais je ne fais plus de théorème. Ah bon, il était un peu spécial. Et ce Paul Erdős, il détectait... Je te réponds.
Il a dit qu'il s'appelle comment ?
Erdős, E-R-D-O-S. Paul. Et ce Paul Erdős, il était passionné de... Il était un découvreur de talent, donc il aimait bien discuter avec des jeunes garçons ou des jeunes filles qui étaient très bons en mathématiques. Et là, vous voyez, c'est un garçon qui s'appelle Terence Tao, qui a 10 ans, et qui ensuite a eu la médaille Fields, enfin, l'équivalent du prix Nobel. Non, c'est un des mathématiciens les plus connus. Et à côté, c'est un mathématicien français qui est mort dans les Pyrénées il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Alexandre Grothendieck. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est mort en 2014. Il s'était réfugié dans les montagnes, il voulait que personne le voie, il avait une barbe comme ça, comme Dumbledore un peu. Non, non, il était apatride, allemand, enfin... Et... Bon, il a une vie... Lui, il s'appelle Grothendieck, il a une vie assez spectaculaire aussi. Et là, on le voit à l'IHES, qui est un centre qui a été créé pour lui par quelqu'un, un financier privé, qui est dans la banlieue parisienne, à Bures-sur-Yvette, et qui a fait ce Grothendieck, il a tellement révolutionné la discipline que dans ma matière, justement, tous les chercheurs, enfin, les chercheurs de la génération un peu plus avant moi, tout le monde parlait français. Donc quand je suis allé la première fois en postdoc à Florence, j'ai demandé, vous voulez que je parle anglais ou français? Et le directeur de la conférence disait non, français. Parce qu'ils comprenaient tous, que ce soit des Américains, des Italiens, des Allemands. Tout le monde lisait et parlait français en géométrie algébrique grâce à ce monsieur. Donc voilà, je crois que c'est la fin du monde. Hop. Bon,
ça doit être la fin parce que ça avance.
Voilà.
Mais il vivait un peu recrue, non?
Oui.
Et de temps en temps, il y avait des gens qui venaient le solliciter, non?
Il a été retrouvé... oui, il a été un peu sollicité, mais on l'a retrouvé, il se cachait. Ouais, et en fait, il a tout plaqué en 1970, il avait 40 ans, et il s'est rendu compte que l'Institut des hautes études était partiellement financé par ce qu'on appelle le CEA, le Centre d'études atomiques. Et comme lui, évidemment, le CEA, c'est les centrales nucléaires, mais c'est aussi les bombes, etc. Et donc, il voulait refuser les 10% qui venaient du CEA. Il s'est un peu braqué. Et il est parti vraiment dans l'écologie. Il a publié il tenait un journal d'écologie, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres mathématiciens. Mais lui, il s'est vraiment braqué de plus en plus. Et donc, à la fin, il s'est retrouvé un peu sans rien. Il a démissionné de tout. Bon, on lui a trouvé un poste à Montpellier. Mais même à Montpellier, je crois que c'est un peu spécial. Il dormait dans son bureau par terre. Enfin, bon, c'est quand même un drôle de personnage.
Les matos.
Oui, non, mais lui, il est très, très à part, hein, Grothendieck. Mais il a vécu... Enfin, bon, même ses parents étaient déjà très spéciaux. Son père a été emprisonné sous 17 régimes. C'était un révolutionnaire russe.
Ah oui, d'accord.
Il s'appelait Shapiro. Enfin, bon, bref.
Beau palmarès.
Oui, c'était une famille un peu spéciale. Donc voilà, un peu...
L'idée de tous les matos.
Merci beaucoup pour cette présentation. Et j'imagine que, fort de cette expérience et de cette envie, parce que vous donnez envie, ces quelques élèves qui ont préparé, donc qui ont un profil plutôt scientifique, ont préparé quelques questions et donc ils vont vous les poser. On vous cède la parole et j'aimerais bien que Wycliffe fasse passer le micro, ça sera plus pratique pour le sortir du support et vous allez faire passer le micro de Charlie et de ses camarades.
Notamment, du coup, je voulais vous demander si. J'ai perdu la question. Problème technique. Oui, est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ?
Alors, je travaille plutôt en équipe. Avec. Ah oui, je vais prendre ça avec le masque, ça va être bien. Mais il marche.
Oh !
Vous êtes sûr ?
Oui,
il marche. Ok. Alors, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas travailler en équipe. Parce que j'étais un peu jaloux de mes idées. Parce que quand vous travaillez en équipe, avec deux, bon, en maths, bah, équipe, c'est deux ou trois personnes. Quand vous travaillez à deux ou trois personnes, vous réussissez à démontrer un théorème. Et ensuite, bon, mais qui c'est qui vraiment a eu l'idée ? Bon, cette ambiguïté me dérangeait quand j'étais jeune. J'aimais bien avoir mon idée, que le théorème soit pour moi. Donc mes premiers papiers, je les signe tout seul. Et puis, en fait, en vieillissant, bah, je m'ennuie tout seul. Et donc, donc maintenant, je travaille en équipe avec des gens plus jeunes, je préfère. Enfin, aux plus jeunes ou quelques plus vieux, mais plutôt aux plus jeunes pour qu'ils me motivent. Parce qu'évidemment, avec le temps, maintenant, ça montrer des choses tout seul, ça me passe. Enfin, disons, j'imagine que si j'avais le niveau de Grothendieck ou de Paul Erdős, ça m'intéresserait d'écrire tout seul, mais là, en général. Bon, non, je réponds mal. Parce que Erdős, il a toujours écrit avec d'autres gens. Bon, maintenant, je travaille en équipe. Plus jeune, j'aimais bien être seul pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la personne qui avait démontré les théorèmes.
Est-ce que les mathématiciens que vous avez présentés sont-ils de bons exemples pour vous ?
Oui, avec des pratiques éventuellement très différentes. Par exemple, mon directeur de thèse, c'est vraiment la génération d'avant qui écrivait peu. Maintenant, on est un peu sous pression pour écrire beaucoup. Quand vous avez une idée, même si elle n'est pas révolutionnaire, il faut vite rédiger et faire un article pour qu'elle soit validée, en quelque sorte tamponnée, article. L'université peut rajouter un article de plus, etc. Il y a, dans la génération précédente, ce n'était pas du tout le cas. Moi, j'avais un collègue d'ailleurs qui est décédé du Covid. Lui, c'était vraiment le vieux savant fou. On allait le voir. T'as entendu parler de ça ? Oui, oui, il avait démontré, il avait des trucs dans son tiroir, mais ce n'était pas assez fort pour qu'il fasse un article. Si on y réfléchit un peu, tout le monde arrive à le faire, donc il vous donnait les résultats comme ça. Mon directeur de thèse, c'est pareil, comme à un moment, il a eu un article qui a été très, 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 très lu et très connu et très fameux dans le monde mathématique. Ben, après, vous ne pouvez pas baisser. Donc après, il essayait toujours d'écrire des choses mieux, donc il n'allait pas s'abaisser à faire des choses moins importantes. Donc les gens avaient peu d'articles dans une carrière, et ils finissaient à 25 ou 30 papiers. Alors que maintenant, la plupart des mathématiciens, même moyens, ont les plus jeunes, ils arrivent vite à 50, 60, 70, 80 papiers, même en mathématiques pures. Donc, j'aimais bien cette génération-là. Erdős, est-ce que c'est un exemple pour moi ? Non, enfin, personne n'a vraiment envie. Quand vous lisez sa biographie, personne n'a vraiment envie de lui ressembler. Il n'a pas eu une vie facile, nécessairement. Grothendieck a eu une vie un peu torturée aussi. Mais c'est des personnages très intéressants. Qui sont toujours intéressants à connaître, même s'ils sont un peu spéciaux. Hein. Moi, je connais bien un bon copain de Grothendieck qui s'appelle Pierre Cartier, qui est un homme assez génial. Il a 88 ans, mais on dirait qu'il en a 50. Il court partout, il saute partout, il connaît toutes les histoires. Enfin, bon. Et sur Grothendieck, il racontait que Grothendieck rentrait dans une salle, c'était une vedette, tout le monde, « Ah, Alexandre Grothendieck !» Et à la fin, il se faisait lâcher parce qu'il arrivait toujours à se faire détester par les salles. Mais bon, donc c'était quand même...
Avez-vous beaucoup de liberté dans votre travail ou êtes-vous très encadré par vos supérieurs ?
C'est une bonne question. Dans mon travail, alors c'est un travail un peu mystérieux, je n'ai pas de supérieur. Donc mon supérieur, c'est le ministre de l'Éducation et ce n'est même pas le président de l'université. Bon, je sais que les présidents de l'université essaient d'être un peu nos supérieurs, mais c'est un peu comme dans un lycée. Le proviseur gère le lycée, mais il n'est pas réellement le supérieur des enseignants. Donc ça, c'est pareil. C'est très libre. Après, votre progression dans la carrière se fait sur vos travaux de recherche. Donc, il y a des gens qui décrochent un peu de la recherche à un moment donné et qui vont un peu plafonner dans la carrière. Et si vous voulez avancer, il faut travailler. Mais évidemment, de temps en temps, on fait un peu le yo-yo. Il y a des gens qui sont très réguliers. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai des périodes où je travaille beaucoup, des périodes où je décroche un peu. C'est pour ça que j'aime bien avoir la partie enseignement. Parce que les moments où on sature de la recherche, parce qu'on peut pas, pour trouver un résultat, il faut y penser un peu tout le temps. Évidemment, quand vous pensez continuellement à quelque chose, il y a des moments où vous craquez un peu, c'est un peu fatigant. Et les moments où vous craquez un peu, si vous ne faites plus rien, ça existe, hein, il y a les chercheurs au CNRS. Moi, je me suis rendu compte que ça ne m'aurait pas trop plu d'être chercheur au CNRS, parce que les moments où vous ne faites plus rien, vous culpabilisez quand même. Donc, quand je décroche un peu en recherche, je m'investis plus dans l'enseignement. Et voilà. Donc, il y a ce... Mais on n'a pas de pression à part dans le travail collectif, la pression des collègues qui vous disent « Bon, où t'en es? Est-ce que t'as fait ci? Est-ce que t'as fait ça ?» Il n'y a pas vraiment de pression du milieu d'un supérieur directement. Ce qui est quand même assez agréable.
Votre travail, du coup, au niveau d'heures hebdomadaires, ça s'élève à combien ?
C'est pas très régulier. Bon, j'ai un travail régulier. Disons, je vais au bureau de manière régulière maintenant. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Hein. Quand j'étais étudiant, il n'y avait pas de profs au bureau. Parce que les bureaux étaient tout petits. C'était un milieu qui était un milieu assez aisé il y a 40 ans, disons. Donc les gens à Paris avaient tous une maison beaucoup plus agréable que le bureau qu'ils avaient à l'université. Donc souvent, ils ne venaient pas à l'université. Ils venaient sur les rendez-vous et c'est tout. Maintenant, ça a complètement changé. Il y a des laboratoires un peu plus organisés, à l'anglo-saxonne. Donc, il faut faire acte de présence, quand même montrer que vous êtes là. Et tout. Donc, j'ai des journées, c'est, disons, 9h, 17h. Mais c'est complètement variable. Des fois, 9h, 17h, je vais faire beaucoup moins. Et puis après, il y a des périodes où on va faire beaucoup plus parce qu'on ne s'arrête pas le soir. Ou notamment quand vous êtes en congrès ou quand vous êtes... Moi, je fais pas mal de visites à l'étranger maintenant. Donc, j'ai fait, par exemple, il y a 2 ans, j'étais 3 mois au Brésil. Pendant les 3 mois au Brésil, le copain qui vous invite ou la copine qui vous invite, elle a des cours à faire, des choses comme ça, donc elle est plus prise et vous êtes libre tout le temps. Donc en fait, on passe 3 mois à travailler. Et bon, donc ce qui fait que là, on ne compte pas vraiment les heures. Mais c'est du travail de discussion, de réflexion. C'est une partie vraiment agréable. Quand on n'a pas de...
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?
Alors, les avantages, c'est un peu ce que je disais. Beaucoup de liberté, beaucoup de voyages, si on a envie de bouger. Les inconvénients, c'est qu'il faut aller un peu à la pêche au sou maintenant. Bon, ce qui est normal. Mais il faut des projets... Donc, en termes de reconnaissance, il faut essayer de trouver des projets qu'on appelle soit financés par ça s'appelle l'Agence nationale de la recherche maintenant, soit financés par l'Europe, c'est encore pire. Donc les projets financés par l'Agence nationale de recherche, c'est très compliqué à avoir. Donc là, ça y est, j'en ai eu un. Après, on est bien financé, mais il m'a fallu 4-5 ans. Souvent, c'est des gros projets à monter. Donc ça, c'est un peu frustrant parce que c'est vraiment très, très peu de gens qui sont élus. Les projets européens, bon... Moi, j'ai abandonné parce que c'est épuisant à remplir. Enfin, Après, on est très bien financé, mais c'est vraiment très, très difficile à voir. Quand je dis très difficile, ça va être 1%, par exemple, des demandes qui sont acceptées. Donc, vous passez 6 mois à préparer un projet, à déposer pour avoir plein de sous. Mais pas plein de sous, c'est pas pour vous. C'est pour les voyages, organiser les conférences, recruter des étudiants, recruter des... Enfin, bon. Donc, ça, c'est le côté un peu désagréable. Enfin, bon, ça fonctionne comme ça. L'autre côté des les autres inconvénients, ça serait quoi ? Ben, si à un moment vous vous trouvez dans le creux de la vague dans une discipline, actuellement ce qui est à la mode, ça n'est plus vraiment ce que je fais là, c'est vraiment tout ce qu'on appelle calcul haute performance, big data, etc. Donc là vous êtes dans le creux de vague, et dans le creux de vague comme ça, il n'y a plus de recrutement dans votre discipline, donc il n'y a plus de jeunes qui arrivent dans votre discipline. Et à l'université, on recrute, les enseignants tournent. Et c'est bien d'avoir des jeunes qui arrivent parce que ça remet un peu d'entrain. Bon. Donc là, en ce moment, la géométrie, on est un peu dans le dur. C'est difficile. Donc ça, c'est l'ennui. éventuellement, il y a une part un peu d'ennui qu'on compense en bougeant, en allant chercher d'autres gens.
Est-ce qu'il y a des qualités particulières requises pour faire mathématicien, enfin, enseignant-chercheur ?
Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Mathématicien, c'est assez ouvert. Hein. Il y a des gens très normaux, il y a des gens pas normaux du tout. Mais ça, c'est un certain avantage. J'ai un étudiant qui est un peu autiste. Son père était venu discuter avec moi. Il ne voulait pas le mettre en prépa parce qu'il disait « je pense que ça ira pas » et tout ça. Et effectivement, à l'université, il se régale. Et les mathématiques, c'est une discipline où il y a vraiment des gens très, très spéciaux et qui sont acceptés par le milieu parce que c'est normal en mathématiques d'avoir des gens bizarres. Mais c'est une chance qui fait que les gens s'intègrent petit à petit. Et, bon. Et en même temps, il y a des gens complètement normaux. Donc typiquement, mon directeur de thèse, pour lui, la qualité essentielle, c'est la force physique. Donc lui, il a toujours été pour faire beaucoup de sport. C'est parce qu'il faut tenir. Quand on est sur un sujet, il faut tenir, s'accrocher. Voilà. Et il y a beaucoup de mathématiciens qui sont très doués, qui vont très vite. Et comme ils vont très vite, il y a Jean-Pierre Serre qui disait ça, les gens qui vont trop vite, notamment à l'école normale supérieure, ils ne vont pas forcément montrer des gros théorèmes, parce que les grands théorèmes, il faut quand même y passer du temps. Ce n'est pas un exercice, on ne va pas le faire très vite. Et bon, ben, ils n'aiment pas rester trop longtemps sur un sujet. Donc il y a la ténacité, c'est quelque chose d'assez important en mathématiques. Après, il y a plein de mathématiques très différentes. Hein. Moi, j'aime bien écrire des articles courts, rapides et fondés sur une idée assez jolie, assez géométrique. Et je déteste les articles théoriques, plein de... Bon, et pourtant, il faut les faire. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça. Mais moi, ça m'intéresse. J'aime pas ce type de maths. Les maths un peu roboratives, ça me plaît pas beaucoup. Je suis obligé de l'enseigner, mais c'est pas ça que j'aime dans les mathématiques.
Il y a donc une beauté des maths.
Ah oui, bien sûr. Bah, c'est lié un peu... Non, il y a une vraie beauté des mathématiques, bien sûr.
Je vais prendre le micro parce qu'il va falloir, merci beaucoup, il va falloir libérer un certain nombre d'élèves. Vous savez qu'on est dans un établissement rural, il y a des bus à prendre et donc on a cette contrainte-là. J'en profite pour vous dire un grand merci, très, très officiellement. Vraiment, donc, vous avez su capter l'attention de cette classe, où il n'y a pas que des scientifiques et que des matheux, et votre récit donne envie. Moi qui ai abandonné les maths très tôt, je me dis, moi, je ne suis pas seul. Je suis peut-être passé à côté d'un univers. Merci, merci beaucoup.